RFI et France 24 présentent. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café des Sports sur France 24, sur RFI aussi, et puis grâce à Facebook Live, sur Internet, sur YouTube. Bref, c'est difficile de nous manquer en fin de semaine. Justement, nous allons refermer cette semaine d'actualité avec nos invités qui sont là, fidèles au rendez-vous. Bonjour Rémi Agono.
Bonjour Annie et bonjour à tous. Ceux qui savent très bien que L'Oréal se portait bien, la Maison Blanche est bâtie pour encore s'élever plus que
pour
sur les hauteurs.
Pour encaisser surtout, voilà. Pour encaisser. Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Annie.
Vous n'êtes pas en blaugrana aujourd'hui?
J'ai un peu de rouge quand même.
Ah ben mais ils ne sont pas en rouge, c'est Bordeaux et
rouge et bleu.
Et violet,
donc... Non mais je suis très en colère parce qu'en fait la meilleure équipe d'Europe n'est pas en finale de la Ligue des Champions, mais on a déjà parlé, mais on va en parler.
Il y a de quoi être en colère. Ouais. N'est-ce pas Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Oui ça va, tout va bien. Bon, ça
tout va bien.
Oui tout va bien.
Frédéric Suteau.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Oui, ouais. Tout va bien.
Et tout le monde est là.
C'est parti sur les chapeaux de roue. Là, le Facebook Live, les commentaires des auditeurs. Alors, on a un coucou là, de Marcus Van. Il est à Kara au Togo. Il nous rappelle même la FM. Il écoute hein, 98.3. Pokem, il est à Bangui. Ça va chauffer entre Rémi et Xavier, nous dit-il. Et Jaffer Ndongo qui n'oublie pas Marc Libra. Bon retour en Ligue des Champions.
Ben oui, ça, c'est, bravo.
Ah, c'est sympa.
Hein. Jamais les premiers.
Eh
ben oui. Et aujourd'hui, on inaugure la statue de Bernard Tapie aujourd'hui à 18h.
Bon, c'est pas un spécial Marseille, Marc. On s'en mêle pas.
Non, mais il faut toujours se placer. On ne sait jamais. C'est une information. Le public africain aime l'OM. Donc
mais c'est pas une statue où il n'y a que le président du club. Il y a aussi les anciens joueurs.
Mais il y a surtout la Coupe d'Europe.
Ouais. Voilà, exactement.
C'est ça, le plus
c'est
important.
Une statue,
ça.
Une statue à... je pense que le calendrier n'était pas... C'était pas innocent, n'est-ce pas, le choix de la date aujourd'hui?
Vous ne savez pas. Je ne sais pas.
Dans les débats du jour, nous commencerons donc par le FC Barcelone Campeón, le champion de la Liga après sa victoire, ponctuée par un but fascinant. Du fascinant Lamine Yamal, le Barça et son nouvel entraîneur allemand Hansi Flick a su tirer tout le talent des jeunes de son effectif pour renouer avec le précieux héritage du football spectaculaire de Cruyff. Barça, Barça! Une finale de cup pour sauver une saison. Les Citizens disputeront à Crystal Palace le seul trophée d'une année compliquée pour Pep Guardiola et ses joueurs. City archi favori, mais les Eagles n'ont jamais remporté cette cup. Be careful donc à Wembley. Du suspense alors que s'achève la saison en Italie, le Scudetto récompensera Naples ou l'Inter, qu'un seul point sépare au classement. En Ligue 1, l'OM et Monaco se disputeront le fauteuil de dauphin lors de la dernière journée. Dénouement demain. Oh, il y aura aussi évidemment les cartons, les vôtres et puis les nôtres. Au générique de cette émission qui m'ont aidé à préparer donc le Café des Sports, salut Diouf avec Laurent Salerno. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Marc Vivien Fouet, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun.
Prix Marc Vivien Fouet. RFI France 24.
Son nom a donc été dévoilé lundi matin sur les antennes de RFI. Le latéral du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, est le vainqueur de l'édition 2025 du Prix Marc Vivien Fouet, qui récompense donc le meilleur joueur africain du championnat de France. L'international marocain, vous en avez vu quelques images si vous avez pu, a reçu son prix des mains de Christophe Jousset, le chef du service des sports. Et les quelques secondes où nous avons pu le rencontrer, il avait l'air satisfait.
Fierté de cette nomination et je suis content, j'espère de gagner plus et aussi de rentrer à le groupe des grands joueurs. C'est très fierté pour moi. Je pense que c'était pour la saison que je fais, c'est pour la saison que Paris Saint-Germain on continue de faire, ce que c'est bien de cette nomination et content de continuer comme ça.
Vous saviez que vous étiez sur la liste et que vous pouviez le gagner?
Oui, j'ai vu que j'étais sur la liste, après j'ai vu les derniers trois nominés et ça m'a fait une fierté énorme de voir tout le travail que j'ai fait depuis des années avec cette prix, cette nomination. Je suis très content.
Il répond à Annie Castille, non, c'est ça?
Oui, oui. Bon, il a pris quelques secondes pour ça. Le défenseur parisien, Achraf Hakimi, succède, on s'en souvient, à un Marseillais, Marc, Pierre-Emerick Aubameyang. Elle est logique, cette consécration, cette saison, au vu de ce qu'il a fait?
Oui, puis il y a aussi Chancel Mbemba, aussi, que nous avions rencontré aussi à Marseille. Oui, oui, c'est logique.
C'est-à-dire par rapport que des défenseurs, collectif, vous faites le lien avec les défenseurs.
Oui, 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 automatiquement. Et par rapport à la saison du PSG, le collectif du PSG, pour moi, on a retrouvé la Achraf Hakimi qu'on a vu à Dortmund, qu'on a vu à l'Inter, qui est très posée, très offensive. Et dans un système où il y a des joueurs individuels, il ne fonctionnait pas. Et là, je trouve que pour moi, je ne le cache pas, pour moi, c'était le choix numéro un.
Xavier, vous aussi?
C'est un rattrapage de tous les choix qui étaient, à mon avis, discutables, notamment la saison dernière. Aubameyang se retrouvait pour la deuxième fois avec le prix Marc-Vivien Fauré, alors qu'il était dans un club qui n'était même pas qualifié pour une Coupe d'Europe. Alors que le Paris Saint-Germain, champion l'année dernière, 10 fois sur les 12 dernières années, n'avait toujours pas eu le prix Marc-Vivien Fauré.
C'était logique.
C'était logique. C'était pas logique, Aubameyang, la saison dernière.
On récompense les performances individuelles.
On récompense les performances individuelles dans un collectif. Et quand tu récompenses un joueur qui n'était même pas qualifié pour une Coupe d'Europe.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains au Paris Saint-Germain?
Mais Annie, il y avait déjà Achraf Hakimi la saison dernière.
Mais il n'était pas bon par rapport à cette année.
Arrête, il était 10 fois meilleur que les autres, puisque le Paris Saint-Germain a déjà été champion.
Donc du coup,
on voit que Aubameyang a été un formidable prix la saison dernière, puisqu'il n'a pas qualifié l'OM pour une Coupe d'Europe, et qu'en plus, cette année, il a complètement disparu.
Achraf Hakimi, il était...
Donc moi, je dis, je suis très content qu'il l'ait, parce que c'est un rattrapage d'une erreur auparavant.
Est-ce que c'était logique que ce soit le meilleur américain de la saison?
Je peux dire d'abord que je ne comprends même pas souvent Xavier Barré.
Ah ouais, c'est vrai.
Nous non plus.
Nous-mêmes, nous étions ici avec Xavier Barré toutes ces années. Il fait semblant de découvrir Achraf Hakimi et qu'il est devenu subitement très bon.
Il
était deuxième l'année dernière, j'avais voté pour lui.
Il était bon. Quand vous regardez ce qu'Aubameyang avait eu à faire, à l'unanimité, il méritait. Cette fois-ci, Hakimi, j'avais des doutes. La preuve, c'est que quand on a lancé le prix, je ne le mettais pas en première position. Et quand j'ai vu ces derniers matchs qui sont décisifs, j'ai dit qu'il méritait ce prix-là. Donc, c'est indiscutable cette saison. Mais si nous ne l'avons pas donné, c'est parce que, pour une fois, les Africains sont toujours d'accord avec le prix Marc-Vivien Fauré, sauf avec les prix de Xavier Barré.
Dans cette émission, il y a 15 jours, Rémi Ngono nous a dit qu'il votait pour Lamine de Monaco, le milieu de terrain sénégalais.
Lamine Camara
de Monaco. Et maintenant, il nous dit oui, c'est normal que j'ai voté pour Achraf Hakimi.
Oui, mais j'ai bien dit que j'ai
3.
Il avait dit qu'il appelait à voter Lamine Camara. Donc on voit que Rémi Ngono est une véritable girouette. On en a l'habitude. Mais on en a encore la démonstration une fois plus aujourd'hui.
Et d'ailleurs, je vais même
rajouter une chose.
Ce que pensent les auditeurs. Félicitations depuis le Sénégal. C'est Ibra Salfal qui nous dit. Pour Achraf Hakimi, il ne lui reste plus qu'à gagner la Ligue des Champions.
On va en Espagne. Voilà, on ne chante pas avec les Espagnols, mais le cœur y est. Une 28e couronne de champion d'Espagne pour les Blaugrana. Alors, si vous nous écoutez, vous avez entendu leur chant dans le vestiaire, mais si vous les avez vus, eh bien, ils étaient donc tous ensemble en train de fêter cela. C'était hier soir, après une victoire sur le club de l'Espagnol, autre club de Barcelone. Victoire 2-0, fête pour les joueurs du FC Barcelone et tout leur staff. Pour le champion, eh bien, ce sont en Liga 75% de victoires pour 14% de défaites seulement, ou peut-être beaucoup, on verra, en tout cas, ce n'est pas des invincibles. Est-ce le triomphe, Xavier Barré, de l'insouciance dans le sillage de la jeunesse, on dirait la jeunesse souriante de Lamine Yamal, même les jeunes que sont Pau Cubarsí ou Rodri? Et avec un mélange d'expériences, Rafinha, Lewandowski ou encore Chesney?
Oui, c'est tout à fait ça, parce que la saison dernière, il y avait déjà ces jeunes qui avaient commencé à faire parler d'eux, mais Xavi avait été un peu débordé, il avait eu du mal à maîtriser la situation, Et là, Hansi Flick est arrivé avec son expérience vécue d'avoir déjà dirigé un grand club, le Bayern de Munich, de l'avoir mené d'ailleurs à la victoire en Ligue des Champions. Et donc, il a su très vite installer son management, faire abstraction de tout ce qui se passe autour du club, tout ce qui est politique à Barcelone, parce que c'est aussi un club très politique. Lui, comme il est allemand, il dit « je ne comprends pas ». Donc, il ne s'en occupe pas, il se concentre sur le terrain, sur les joueurs.
Il ne parle pas catalan.
Il ne parle pas catalan, effectivement. Et le résultat, il est là. On a un Barça qui a joué un football merveilleux, qui a su faire
Mais
grandir...
Est-ce que ça vous a surpris qu'ils arrivent déjà à une plénitude aussi vite dans la saison? Parce que Lamine Yamal, il avait joué l'année dernière, mais il commence à être déterminant depuis l'Euro.
Oui, il était déjà bon la saison dernière, mais effectivement, il a acquis un peu plus d'expérience parce qu'il est très jeune. Mais surtout, autour de lui, il y a d'autres très bons joueurs. Et c'est là qu'on a vu cet amalgame qui a pris très vite, surtout. C'est ça qui m'a le plus étonné, c'est que Hansi Flick, à peine arrivé, il a tout de suite trouvé le mode de fonctionnement de cette équipe, alors qu'il y avait beaucoup de blessés en début de saison. Mm-hmm. Frenkie de Jong, par exemple, n'était pas là. Ensuite, Marc-André Ter Stegen a été absent toute la saison. Ils ont dû prendre comme gardien Szczęsny, le Polonais, qui est pas un formidable gardien, mais bon, qui a fait l'affaire. Donc, on a quand même eu des circonstances qui pouvaient prêter à certaines interrogations. Il y a eu d'ailleurs une mauvaise série de résultats à l'automne qui a fait qu'en championnat, le Barça a marqué un peu le pas. Et puis, Hansi Flick s'est jamais affolé. Il a toujours fait confiance à cet amalgame que vous avez très bien résumé, Annie, entre les anciens et les jeunes.
C'est l'insouciance aussi de cette jeunesse qui ne calculait pas et qui a réussi à... je dirais porter aussi les victoires du FC Barcelone,
oui,
selon vous, Marc.
Parce que la plupart des gamins, on voit Gavi sur les écrans, Olmo, toute cette génération, 24 ans d'âge, moyenne d'âge 24 ans, c'est la plus jeune. L'année dernière, il faut bien se rappeler qu'ils sont passés pas loin. Hein. Et ils avaient peut-être. Donc ils ont accumulé cette expérience.
Pas loin du titre.
Pas loin du titre. La saison passée, ça se joue très peu avec le Real. Parce que le Real
avait gagné il y a 2 ans avec Xavi.
Exactement. Mais Xavi n'a pas trouvé. Et Hansi Flick a récupéré le bébé, mais il a su faire. Quand on voit aujourd'hui Rafinha, il monte, il est en progrès constant depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et quand on parle du Barça, de ce qu'ils ont vécu, ils ont vécu des horreurs. Enfin, ils ont eu des problèmes financiers. Ils sont repartis à zéro. Ils ont dû admettre de ce qui se passait pour le Grand Real. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, sur le jeu, mais c'est sur leur force. Et sur le jeu, il n'y a plus rien à dire.
Sur le jeu,
il n'y a plus rien à dire. Cette équipe-là, je crois qu'elle a perdu seulement 5 rencontres, 4 nuls, 27 victoires. Donc, Annie, c'est énormissime dans un championnat qui est très dur. Et surtout, ce qui a marqué, c'est que chaque confrontation avec le Real ou en Ligue des Champions, ils ont la finale, pour moi, c'était Barça-Inter. Bon, je voulais voir la finale Barça-Inter. On l'a vu avant, on l'a vu en demi. Mais on s'est éclaté. C'est ce genre de choses où là, je peux me lever de mon canapé, de mon fauteuil et hurler. Voilà, c'est dommage que... Bon.
Rémi, sur cet effectif, est-ce que c'est aussi ça la force du Barça? Après, on va parler de l'entraîneur parce qu'il a eu aussi son rôle. Mais cet effectif-là, au début de la saison, finalement, ils ont été obligés de les aligner, obligés de les valoriser, obligés de les faire jouer en puisant notamment dans la Masia parce que le club n'avait plus d'argent. Ils ont eu de la chance, quoi.
Ils ont eu la chance, mais on devrait aussi dire quand même que quand vous avez Szczęsny, vous n'allez pas dire que c'est le dernier gardien. La preuve, c'est que Inter se qualifie avec un gardien de 36 ans.
Donc Szczęsny, il vient pas de la Masia, lui, il est pas
voilà.
Jeune.
Bon, Szczęsny, il a fait un rôle, il a joué un rôle hyper important parce que on a vu les bugages qu'encaissait Ter Stegen.
Qui était moins bien.
Voilà, donc Szczęsny a été essentiel pour cette équipe-là. Et bien évidemment, on a vu l'expérience aussi de Lewandowski qu'on a retrouvé. Mais bien évidemment, je ne suis pas encore au niveau de l'entraîneur. Mais quand on voit, quand même, c'est que le Barça a retrouvé un milieu de terrain qui a fonctionné. Or, on voit le grand Barça, c'était quand il y avait Xavi, Iniesta, avec Busquets. Donc, c'est ce milieu de terrain-là. Sauf que ce Barça... bien évidemment, je ne le trouve pas formidable. Pourquoi ? Parce qu'il prend beaucoup de... Oui. Parce qu'on est en train de parler là d'une équipe qui, sur le plan national, a remporté. Mais sur le plan européen, vous allez me dire c'était le plus beau club du monde. Mais j'ai vu ce Barça qui n'a pas rencontré de grands adversaires. À peine il est tombé devant Dortmund, il est passé à un fil,
ils sont passés
de un doigt. C'est-à-dire, ils ont été battus. Ils sont tombés devant Inter... Ils n'ont pas pu trouver la solution. Donc c'est bien Xavier Barret qu'aujourd'hui tu me dises que quelqu'un qui gagne en Europe, oui, la Coupe du Village et la Liga, et bien évidemment, et qu'il remporte le 28e trophée que L'Oréal avait remporté, bien évidemment, il y a 24 ans, tu dises que c'est le meilleur club du monde. Eh bien, c'est bien. C'est bien.
Mais on n'a pas dit que c'était le meilleur club du monde. C'est le meilleur club d'Espagne.
On voit c'est d'Europe. J'ai dit d'Europe, mais effectivement, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu la semaine dernière sur l'arbitrage de Inter-Barça. Mais quand on voit ce qu'est capable de développer comme jeu ce Barça-là,
c'est sur ça que je voulais repartir, Xavier. Parce que Hansi Flick vient d'arriver. Vous le dites, il fait un peu table rase de tout ce qui se passe autour, de ce qu'il entend. Il a peu de moyens, il fait avec l'effectif qu'il a. Et il a réussi à renouer avec ce qu'on a toujours aimé au FC Barcelone, surtout dans les années 2010, avec Pep Guardiola, avec Luis Enrique et tout ça.
Oui, c'est-à-dire ça, le grand Barça. Vous vous souvenez, il y avait les années 90, on parlait du grand Barça.
Il y a eu, là où il gagne beaucoup de trophées.
Il y a eu quand même Guardiola, les années 2010, le grand Barça aussi. Et là, on a l'impression de retrouver un grand Barça.
Voilà, un espèce de football total qui était ce football hérité de Cruyff quand même.
Absolument, c'est Cruyff qui a posé...
Et que même Xavi n'avait pas réussi. Mais si Xavi n'avait pas réussi, c'est pas qu'il ne voulait pas.
Période difficile, il arrivait à une période compliquée. Parce que justement, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'argent pour recruter. Donc il a dû faire confiance massivement à des jeunes, très jeunes, qui ont acquis depuis une expérience. Souvenez-vous, il lance Gavi et Pedri. Alors, Pedri n'a pas été formé à Barcelone, il vient de Las Palmas. Oui. Mais Gavi a été lancé, pareil, à 16 ou 17 ans. Donc, ce sont des joueurs qui ont été... Ansu Fati, pareil, il avait déjà débuté. Mais ce sont des joueurs qui ont été beaucoup alignés, probablement un petit peu trop jeunes, qui se sont retrouvés blessés. Et qui, là, par chance, sur cette fin de saison, il y a eu très peu de blessés. Il y a encore Marc Cassado, je crois, qui est out. Et puis ici, bien sûr, Koundé qui a été blessé là en fin de saison. Mais sinon, sur la deuxième partie de saison, il a pratiquement récupéré tout le monde, notamment Frenkie de Jong qui a été extraordinaire. Et puis, il y a un joueur qui est formidable, c'est Pedri. Pedri, il a des yeux dans le dos. Hein. Les passes qu'il arrive à faire, c'est un joueur, c'est le régulateur de cette équipe. On retrouve le Xavi qu'avait le grand Barça.
Julien Benga, pour moi, Pedri, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone, il n'y a pas photo. Oui.
Avec De Jong, quand De Jong là, les deux sont assez importants.
Marc, on s'est moqué un peu, fut un temps, du tiki-taka. Hein. On disait, bon, ça y est, on a compris la possession, c'est pas toujours. Mais là, on a l'impression qu'on revient aux fondamentaux à Barcelone et en même temps, il y a un petit grain de folie en plus.
Ben, le grain de folie, il est fait par Yamal qui est inarrêtable.
Le grain de folie, c'est 97 buts marqués en 36 matchs. Ça fait presque 3 buts par match. Mais surtout, alors là, vous allez peut-être nous dire l'importance. D'ailleurs, 86% des buts sont inscrits dans la surface de réparation.
Oui, mais c'est un système de jeu. Quand on voit Yamal qui est inarrêtable, on peut mettre 2 ou 3 joueurs. À une époque, on se posait des questions sur certains joueurs. Mais ce gamin-là a 17 piges, qui a plus de 100 matchs. Plus de 100 matchs à Barcelone.
Il est né le 13 juillet 2007.
Voilà, il va avoir 18 ans le 13 juillet. Il a déjà soulevé une très grosse coupe européenne avec son pays. Et il est déjà à plus de 100 matchs avec le Barça. Mais aujourd'hui, c'est ce gamin qui tient l'équipe avec un Rafinha d'un côté qui est inarrêtable. Quand on a vu le match le week-end dernier entre le Barça et le Real, s'il y a 8 à 10, ou je ne déconne pas, parce que Mbappé peut marquer, il en a mis 3, il peut en mettre 5 ou 6. De l'autre côté, il peut en mettre 9 ou 10. Et cette demi face à l'Inter, Sommer qui va sauver, parce qu'autrement, Yamal, même à la 94, il peut encore marquer des buts.
Il tape sur le poteau.
Et il tape sur le poteau. Et après, il y a le fameux encore arrêt de Sommer. Mais ça va leur coûter cher parce que c'est le manque d'expérience. Parce que autrement, le Barça aurait dû gagner. Mais aujourd'hui, cette équipe-là, le grain de folie, il est fait par leurs attaquants. Et vous avez la valeur sûre, quand il y a Lewandowski qui était absent sur la demi, qui lui, il vous rappelle que s'il y a deux bons ballons, il met deux buts. Donc vous vous dites, ah ben on est tranquille.
Il y a un petit message pour Rémi, là, sur le Facebook Live. Kodzo Yave Azoé. Rémi, pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, félicite le Barça.
Mais c'est ce qu'il vient de faire. J'ai un contre-cœur, mais c'est ce qu'il vient de faire.
Oui, mais bon.
j'ai félicité le Barça. Le problème, c'est que les Catalans, c'est eux qui sont malhonnêtes. Pourquoi est-ce que je veux le dire? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du football offensif, mais Xavier Barret et les autres ont passé le temps à dire ici que Mourinho était l'entraîneur défensif. Mourinho, il détient un record sur le plan offensif avec le Real. 110 buts. On est en train de parler de 97 buts.
Mais ils sont pas finis, Rémi. Peut-être
il ne reste que 2 matchs. Ils ne vont pas marquer. Et je vais vous dire que si vous regardez cela, d'ailleurs, je peux vous le dire, l'écart en entre les équipes actuellement, parce qu'avec le Barça, quand il était en train de cartonner, c'était toujours l'écart de 4 buts de différence. Mais là, c'est 2 buts de différence. Et d'ailleurs, vous allez dire que, par exemple, oui, ils ont même contre le Real. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des joueurs qui, devant le gardien, ratent, eh bien, le Barça, là, ne bat pas le Real. Si vous n'avez pas Lucas Vaquez qui donne la passe, à Rafinha, vous n'avez pas le Real, par exemple, fait au jeu.
Vous refaites les classicos.
Non, je veux dire que Annie,
si Zidane
Annie,
ne place pas sa tête en finale de la Coupe du Monde,
Annie,
il n'y a pas Coupe du Monde.
Je vais te dire que le Barça a profité du fait que toute la défense du Real était blessée. Toute la défense. Bon. Et eux, ils avaient leur effectif. Et vous le savez, j'ai toujours dit, la force de la rivière vient de sa source.
Il manquait justement Koundé et Alejandro Balde.
Que deux joueurs.
Et là, tu parles de deux latéraux. Et la semaine dernière, dans l'émission, on disait justement qu'on était un peu inquiet pour cette défense du Barça, parce qu'elle avait eu des difficultés à Milan et qu'elle
vous
se présentait sans Koundé et Alejandro Balde pour le Classico. Mais je crois qu'ils ont gagné quand même.
Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? 11 joueurs dans
un effectif. Rémi. En tout cas, malgré les blessés, ils ont remporté leur 4 classico quand même cette saison.
C'est mérité. Hein.
Alors,
c'est mérité.
Exactement. C'est on se demande si on en aura autant des classico l'année prochaine, mais en tout cas, espérons que le Real fasse quand même peser un peu d'adversité dans l'air. En tout cas, ils ont aussi remporté la Copa del Rey, donc c'est déjà 2 titres majeurs pour eux. Et on
c'est
a
majeur,
envie.
Hein.
On a envie de leur dire à la fois...
C'est dans... majeur. Copa del Rey, majeur. Et Super Coupe d'Europe, Rémi. Ce n'est pas majeur. Coupe intercontinentale, ce n'est pas majeur.
Super
Coupe
de
l'Espagne, c'est majeur. Coupe du village,
non.
C'est majeur. Voilà le raisonnement des Catalans.
Super Coupe d'Espagne, non.
Alors, je ne suis absolument pas catalane. Et on a envie de dire à la fois...
C'est une belle ville, personne.
On a envie de dire gracias. On a envie de dire gracias. Ça, c'est en catalan. Et on a envie de dire « danke » aussi, « danke » Hansi Flick. Quelques mots encore à... Non.
Non, mais si, sur
Hansi Flick, les Catalans,
effectivement. Non, mais on en a parlé un peu au début, mais il souligne, là, les auditeurs, téléspectateurs, chapeau à Flick pour son travail. C'est lui, la meilleure recrue du FC Barcelone.
Non, il a bonifié, parce qu'à Xavi, il lui manquait des choses qu'Hansi Flick avait vécu dans d'autres clubs.
Voilà, il avait gagné avec le Bayern, le triplé,
c'est pour
tout
ça.
Il sait faire.
Il a su repositionner certains joueurs. Regardez Eric Garcia, qui était un défenseur central moyen.
Koundé, aujourd'hui, il n'est plus le même.
Il l'a mis au milieu de terrain, où finalement, il était bon. Et là, il avait besoin d'un arrière-droit parce que Koundé était blessé, il l'a mis arrière-droit et il a su le mettre en confiance et le relancer. Allez. Donc c'est vraiment un très bon coach.
Parlons un petit peu de foot anglais parce qu'il y a une finale et ça sera demain à Londres. City are through to their third FA Cup final in succession. Crystal Palace are into the final. Crystal Palace will await on May the 17th for the FA Cup final. La Coupe d'Angleterre, la FA Cup, garde tout son prestige en Angleterre. Elle n'en a rien perdu au pays du football. Et demain, ce sera la 158e édition. Écoutez un peu, hein, 158e édition sur la pelouse du mythique stade de Wembley, bien sûr, le stade de Londres, avec un face-à-face entre eux, Crystal Palace et Manchester City. Les bookmakers anglais misent carrément, peut-être sans risque, sur la victoire des Citizens. Ils sont quatrièmes de la Première Ligue à 2 journées de la fin, alors que les Eagles planent à la 12e place, c'est-à-dire en deuxième partie de tableau. Hein. Surtout, ce serait un trophée pour les Citizens de Pep Guardiola, qu'on a vu cette saison méconnaissable. Et ils remporteraient ainsi leur 8e titre dans cette catégorie. Est-ce que c'est de quoi, Marc Libra, sauver la saison de Manchester City ou sauver l'honneur?
C'est sauver l'honneur. Un trophée est toujours important, mais il faut passer outre. 2016-2017, Guardiola arrive, c'est la première année où il ne gagne rien. Depuis, à chaque fois, il a remporté un titre. Et les plus prestigieux, au moins un. Là, il pourrait partir. S'il n'y a pas de titre, ça ferait bizarre. Kevin De Bruyne, 10 ans, c'est peut-être la dernière fois qu'on va voir Kevin De Bruyne.
Extraordinaire joueur qui rien que pour lui,
rien que pour lui,
une victoire.
Oui, ça serait magnifique. Donc City doit toujours accrocher cette fameuse Ligue des Champions. Ils sont toujours pas assurés. Alors que Crystal Palace, tranquillou bilou, ils sont sauvés, ils peuvent se le faire à la cool. Eze est en pleine forme. On a Lacroix, on a Mateta. Ça ne va pas être hyper facile. Et d'un côté, Rodri... Enfin, il y a tellement eu de déceptions cette saison avec Rodri blessé. Bon, le Ballon d'Or, mais blessé, il n'y a plein de problèmes, élimination avec des champions, plein de soucis, que ben, eux, vraiment, il y a quelques années, c'était pas là, il faut vraiment qu'ils la remportent. Parce qu'autrement, ça, pour moi, ça devient gênant.
À noter que Crystal Palace n'a encore jamais remporté ce trophée.
Jamais rien gagné.
Rémi, qu'est-ce que vous aussi, vous pensez que les bookmakers ont raison et que City est largement favori en dépit de cette saison? Erling Haaland parle d'une saison horrific and boring. Alors, il y va. Même s'il lui a mis 21 buts en 29 matchs seulement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont pris surtout des raclées phénoménales. Et c'est ça qui nous a surpris.
Oui, mais bon, il faut quand même se dire que lors des 8 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. Mm-hmm. Même s'ils perdent 2 points précieux là face à la lanterne rouge, Southampton, c'est-à-dire qu'ils font quand même un match nul qui est bizarre avec la lanterne rouge, contre la lanterne rouge. Mais par contre, il faut se dire que de l'autre côté, c'est vrai que Crystal Palace, ce n'est pas une équipe très forte, mais on a quand même vu qu'à l'aller, ils avaient tenu en championnat, en Première Ligue, ils ont tenu ce Manchester City par 2-2. Mais bon, ils ont perdu le retour par 5-2.
Oui.
Mais cependant, quand on essaie de regarder aussi, ils ont perdu les matchs importants tous ces derniers temps. Mais curieusement, au moment où la finale approche, ben oui. Ils ont battu Tottenham, ils sont partis battre Tottenham.
Ouais, enfin, Tottenham, vous savez,
oui, mais
ils
c'est quand même, ils ont battu Tottenham.
Ils ont un peu lâché Tottenham.
Entre Tottenham et Southampton, tu ne parviens pas à vaincre le dernier. Mais c'est-à-dire que c'est Pep Guardiola qui doit se poser des questions aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour la première fois, j'ai vu les nominés pour le meilleur entraîneur de l'année. Ils sont 5 en Première Ligue. Depuis 2019, c'est la première fois qu'il ne figure pas. Donc, il n'a pas...
Heureusement, vu la saison...
Donc, aujourd'hui, Pep Guardiola, devant n'importe quelle équipe, peut perdre. Donc, ce sera un match et c'est une coupe.
Et puis, c'est une finale, bien sûr.
Oui,
bien sûr, Rémi.
Oui, Manchester City est déjà abonné sur la COP. Manchester City a un effectif supérieur. Manchester City revient bien en compétition. Mais pour moi, de toutes les façons, c'est leur objectif désormais, remporter absolument cette coupe. Et sinon, oui, ce ne sera rien. Et un proverbe africain qui dit, une cage en or sans oiseau n'a pas de valeur.
Une seconde, Marc a parlé réactions tout à l'heure de quelques joueurs de Crystal Palace. On a aussi Ismaël Assar.
Ismaël Assar, bien sûr, l'international sénégalais.
Je peux vous dire que là, ils sont là, hein, les auditeurs, Adal Fums.
C'est normal, je l'ai oublié de le citer. Mais
Ismaël Assar, Crystal Palace, ont créé la surprise. Abdoulaye Diallo, Ismaël Assar, des grands soirs, vous allez voir. Palace pourrait créer la sensation. Je regardais les stats, vous disiez 158e finale de la Coupe. Ils ont été 2 fois en finale, 90
et contre deux,
et 2016. Ils ont perdu à chaque fois.
Contre les deux Manchester.
Donc,
belle occasion. Ismaël Assar était très bon en demi-finale contre Aston Villa.
Oui.
Ils ont gagné 3-0. Il a marqué 2 buts.
Ils n'ont même jamais battu.
Il a marqué 2 buts, 2 des 3 buts des Eagles. Donc, c'est une équipe effectivement très compliquée à manier. Bon, Rémy Nguno a rappelé les scores en championnat, hein, 2-2 et 5-2. Donc, normalement, Manchester City est favori de cette confrontation. Mais cette formation de Crystal Palace, elle a été capable de surprendre plus d'une équipe cette saison parce que c'est un bloc qui va très, très vite vers l'avant avec Jean-Philippe Mateta qui avait eu cet accident un peu, limite dramatique dont il s'est heureusement remis. Mais il joue avec une protection toujours. Eze qui est bourré de talent. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont de l'expérience. Et Chilwell, l'ancien arrière-gauche de Chelsea. Il y a vraiment des bons joueurs dans cette équipe. Mmh. L'entraîneur Glasner, un Allemand qui est arrivé il y a quelques temps, a réussi à faire tourner cette formation de façon à ce qu'elle se maintienne. C'est souvent l'objectif pour Crystal Palace. Quand on voit qu'effectivement Tottenham, Manchester United sont derrière eux, on peut dire qu'ils ont quand même fait une belle saison.
Mmh. Ouais. Donc ça sera le suspense et le match aura lieu, ça sera demain en fin d'après-midi, 17h30.
On sera vraiment à la fin de Paris. Pour certains joueurs, c'est ça qui est pour moi qui va être important.
À Manchester City, ouais, oui, vraiment. C'est leur dernière fête.
Est-ce que Guardiola va rester
tous ensemble?
Parce qu'on peut se dire que Guardiola aujourd'hui, il n'a pas su prendre le tournant comme peut-être Ancelotti la saison.
Oui, mais peut-être qu'en réorganisant effectif.
Beaucoup de monde,
il a été prolongé l'année dernière.
Non seulement il a prolongé.
Oui, il a encore l'envie, l'énergie, l'enthousiasme. Voilà. C'est ça qu'on a senti cette année.
En cas de défaite,
il lui manque le
Je pense que ça peut commencer à gêner un petit peu les supporters.
En conférence de presse, il a même dit tout à l'heure, il a même commencé à évoquer l'avenir et à parler de certains joueurs qui sont annoncés à Manchester City, à commencer par Florian Wirtz, qui viendrait de Leverkusen. Donc, on peut penser, enfin c'est même une certitude, que Guardiola, il se projette déjà sur la suite. Et il faut rappeler une chose, c'est que Manchester City sera au Mondial des clubs. Mm-hmm. Et que le Mondial des clubs va avoir, comme pour le Real Madrid, pour Manchester City, une importance réelle, compte tenu de la saison décevante qu'ils ont réalisée.
Ça sera donc à 15h30 temps universel demain, samedi, en fin de journée à Wembley. Passons au suspense que nous offrent les championnats européens ce week-end. Le Scudetto, le symbole du vainqueur du championnat italien, ne sait pas encore où il passera l'été. Il pourrait le passer au pied du Vésuve, au sud de l'Italie, à Naples bien sûr, ou alors dans, un peu plus au nord de l'Italie, à Milan et évidemment dans les armoires de l'Inter. Il reste deux journées en Serie A et ces deux équipes ne sont séparées que par un seul point. Elles ne jouent pas l'une contre l'autre. Hein. Mais la défaillance de l'un des deux sera peut-être fatale à l'autre. En tout cas, tout pourrait aussi se jouer à la 38e journée. Naples va jouer à Parme, alors que l'Inter reçoit la Lazio. La finale de la Ligue des Champions, est-ce qu'elle peut troubler, changer, modifier la course de l'Inter, Rémi?
Oui. Ça va modifier. Pourquoi? Parce que l'Inter aujourd'hui est une équipe sur les rotules. Quand vous essayez de regarder, par exemple, qu'ils ont été totalement épuisés face au Bayern, qu'ils ont souffert également aussi face au Barça.
Ah bah oui, ils ont joué même les prolongations.
C'est-à-dire aujourd'hui, et vous regardez la moyenne d'âge. La moyenne d'âge de l'Inter, c'est 29 ans et demi. Mmh. Et en plus, ils ont joué 15 210 minutes de plus que Naples. Puisque Naples...
Ah bah oui, Naples...
15 000, oui.
Ça fait combien de matchs?
15 000, oui.
Naples n'est pas européen cette saison.
D'un autre côté, il n'y a eu pas la Ligue des Champions, nouvelle formule.
Naples n'est pas européen cette saison.
C'est un championnat à part entière.
C'est deux matchs.
Parce que ça commence en août et ça finit en février.
Parce qu'il y a une vingtaine de matchs.
C'est vrai, c'est vrai. Inter était engagé sur quatre fronts. Or, par exemple, quand vous voyez Naples, même la Coupe d'Italie, ils ont joué à peine trois matchs. Ils n'ont pas joué une compétition européenne. Donc aujourd'hui, ils sont un peu plus frais. Or, aujourd'hui, Inter, non seulement est en train de sortir la langue, mais surtout, Inter voudrait réaliser peut-être le coup de 1964, où, par exemple, ils étaient au coude à coude comme ça, et ils avaient privilégié la Ligue des Champions, ils sont partis remporter ça. Donc aujourd'hui, on se dit quand même que cette équipe de l'Inter a beaucoup de difficultés au regard de certains cadres qui sont un peu épuisés. Mais bien évidemment aussi, ils peuvent recharger des batteries parce que d'autres, comme Dumfries, ils étaient blessés, ils sont revenus. Mm-hmm. Donc, peuvent porter cette équipe. On ne sait jamais avec l'Inter, c'est des gens... Parce que même quand ils ont joué face au Barça,
il
fallait regarder à Serbie à la dernière seconde. Il a couru. Donc, mais peut-être cela, ils peuvent
vous
faire.
Vous pensez que le dénouement sera ce week-end ou vous pensez que ça va se jouer à la 38e?
Je pense que ça va se jouer à la 38e.
À la 38e, ils reçoivent Cagliari, Naples et... Comme ira à l'Inter. Marc, comment vous voyez ce mano à mano là? Parce que un point les sépare, le moindre club qui va chanceler là va perdre le titre.
Je pensais le week-end dernier, puisque l'Inter allait au Genoa, et ils ont mis une équipe bis. Et en fait, ils gagnent au Genoa, ce qui n'est pas prévu avec une équipe bis, parce qu'ils se disent, bon, le Napoli, malheureusement, est en tête, et le Napoli va se raccrocher. Ça rebat les cartes complètement. À Nice, ça rebat tout parce que je me dis, bon, le Genoa, ils vont... finalement, avec une équipe bis, l'Inter se relance. Donc maintenant, l'Inter va devoir faire l'effort d'aller chercher ce qui peut-être n'était pas prévu. Parce que normalement, ils auraient dû garder 4 points et c'était fini, on n'en parlait plus. Ils gagnaient ce week-end, fini.
C'est réglé. Vrai que tout
et là, du coup,
tout
la victoire
au Genoa. Mais
surtout le faux pas de Naples a tout relancé.
Le faux pas. Et la victoire au Genoa, tu n'es pas censé gagner au Genoa, tu gagnes avec une équipe bis. Tu n'as pas tes joueurs.
Torino.
Tu fais tourner.
Naples-Genoa.
Et tu fais tourner, en fait, ton équipe. Et là, tu te dis, ah ouais, mais finalement, on rebat les cartes. Mais finalement, les gars, Naples nous a passé devant. Parce que rappelez-vous, Naples, ils perdent en janvier Varaskiela, qui part, qui était le meilleur joueur, qui est d'ailleurs exceptionnel avec Paris. Et en fait, Naples, tranquillement, ils ont avancé et ils ont doublé tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. Personne.
Non.
L'Inter, on est dans un fauteuil. Mais ils ont lâché des plumes.
Mais c'est compté quand
la
même
victoire,
hein, à Naples.
Bien sûr, mais la victoire aujourd'hui de l'Inter, qu'on le veuille ou non, ils sont fatigués, mais il y a la victoire. Donc, c'est une finale. Mm. Et la finale, il y a 2 ans, ils ont su la préparer aussi. Ils l'ont perdue parce que Rodri, parce que... Donc, pour moi, aujourd'hui, tout est rebattu. Et croyez-moi, les Italiens sont capables d'avoir la récupération qu'il faut. Et ce week-end, en cas de faux pas, ils laisseront tomber et ils auront 10 jours pour se préparer de la finale. Mais si Naples se fait accrocher et que l'Inter fait un résultat, finalement, il y a peut-être la cerise sur le gâteau qui n'était pas prévue, alors qu'il y a peut-être 5-6 journées, c'était l'Inter qui était champion, quoi qu'il arrive. Et ils se sont un peu laissés avoir.
Xavier,
un petit message juste avant, Annie. Claire. Non, mais peut-être qu'on sortira la calculette à la fin de l'émission, là, parce que Oumar Abraham, Mahamat, il nous dit 15 000 minutes.
Ben oui.
De plus, il faut quand même un peu doser, Rémi. Ça fait 166 matchs.
Ouais,
il
doit
y avoir un zéro de trop, je pense.
Ben oui, oui, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit ça.
1500 minutes, ça doit être. Ça doit être
1500. Lui, il a la calculette, c'est
ça,
notre auditeur, c'est pour ça.
Parce que ça me paraissait.
Attendez.
Xavier, parlons de Naples quand même, parce qu'eux aussi, ils font une saison très bonne. En même temps, ils n'hésitent pas à se départir d'un des meilleurs joueurs, qui est Kvaratskhelia. Mais Conte a réussi à trouver ce groupe pour essayer de renouer avec une victoire. Alors, ils ont attendu 30 ans le titre jusqu'en 2023, hein, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ils ont très faim.
Oui, ouais. Ils ont toujours la volonté. Mais Conte est très fort pour monter des opérations commando. Hein. Mm-hmm. Il l'avait fait avec la Juventus auparavant, avec l'équipe d'Italie, avec l'Inter, avec Chelsea.
Oui, l'année dernière, il arrive un peu en cata parce que ça se passait mal avec Rudy Garcia. Et puis finalement, il arrive à faire quelque chose.
Il arrive à remonter une équipe compétitive avec une philosophie totalement différente de celle qui était en place à Naples depuis plusieurs saisons. Oui. Avec les entraîneurs précédents. Mm-hmm. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est intéressant. Le départ de Kvara a quand même affaibli le potentiel offensif de l'équipe. Maintenant, il y a encore de très bons joueurs,
oui.
Hein, puisqu'ils ont un gros effectif. Et surtout, Rémi, pour une fois, je suis totalement d'accord avec lui, l'a expliqué clairement, Naples n'étant pas en Coupe d'Europe, ils peuvent se concentrer sur le championnat. Et donc, effectivement, ils sont plus performants.
Ça leur a pas porté bonheur la semaine dernière, alors que les autres avaient disputé un match de dingue.
Ça ne se fait pas tout, mais ils n'ont pas cette excuse, entre guillemets, parce que Conte est quand même un entraîneur très exigeant et il demande beaucoup d'implication de ses joueurs.
Quelques réactions encore, Frédéric ?
Oui, on nous rappelle que Naples a aussi perdu Osimhen. Enfin, ça fait un petit moment, hein, mais... Ouais. Au passage,
l'été dernier, en fait, parce que
il a gagné la coupe, tiens. Non, mais Turquie, il a mis deux buts. Hein,
mais ils ont toujours Anguissa.
Il est
toujours
Lukaku.
Ils ont perdu Zielinski qui est parti à l'Inter aussi. Non, mais ils ont. Ça, c'est un peu Conte. Hein. Il a voulu faire une équipe à lui, donc il a laissé filer Osimhen, Zielinski. Il a pris Lukaku.
Bon, ça peut être bon pour lui parce qu'il est en train peut-être de réussir son pari. Parce qu'on s'attendait pas en perdant ses joueurs, on se dit bon, c'est fini. Et c'est l'Inter qui s'est mis dans un fauteuil et qui s'est dit bon, on est tranquille. Ligue des Champions, et puis le Napoli, on ne pensait pas que ça réussisse autant.
Allez les amis, il y a un autre suspense, et là c'est en Ligue 1 pour une place de dauphin.
Ah.
Ça, c'est bien.
Un petit clin d'œil, évidemment, pour
c'est
le panache.
Mais oui, mais c'est le panache. On est deuxième.
Maestro Salerno, bien sûr.
On joue même pas, on est deuxième.
Bon, alors, en Ligue 1, c'est simple. Le Paris Saint-Germain fêtera son hexagone sur la pelouse du Parc samedi soir. Il n'y a aucun suspense. Par contre, derrière, on se bagarre pour des places européennes au-delà du podium. Mais cette deuxième place du podium, où l'OM qui reçoit le stade Rennais avec Habib Bey sur le banc. Hein. Habib Bey, il doit se dire, bon, c'est ma chance. Et Monaco ira jouer à Lens. Marc, est-ce que c'est important, finalement, cette place de dauphin où les Marseillais ont fait l'essentiel la semaine dernière, c'est-à-dire assurer une place directe en Ligue des Champions la saison prochaine?
Alors, la priorité en début de saison, je vous aurais dit, il faut être sur le podium, c'est-à-dire que pour la première place, ça paraît compliqué, on l'a encore vu cette saison.
Mais ils l'ont été tellement sur le podium.
Ils l'ont été tellement, c'est mérité aujourd'hui, avec Monaco, ces deux équipes méritées. Quid, second, beaucoup plus d'argent, ils vont toucher la Ligue, beaucoup plus d'argent.
Mais si on ne parle pas d'argent
si on parle pas d'argent, c'est là de se dire, bon, mais quoi qu'il arrive dans le championnat aujourd'hui où Paris est devant, ben, on est peut-être les premiers du groupe du championnat. Parce que c'est un peu ce qui se fait, puisque Paris est tellement fort aujourd'hui et financièrement très, très fort.
Gagner au Vélodrome dans le meilleur stade de France, selon nos camarades de l'équipe, c'est peut-être aussi ce que veut...
C'est une réalité. Pour une fois que l'équipe ne dit pas de bêtises, c'est une réalité. Donc,
ce que veut l'OM et ce que veut De Zerbi.
Oui, mais c'est un projet. Mais heureusement, parce qu'il y a eu tellement d'investissements qui ont été mis en place qu'aujourd'hui, il fallait à tout prix que l'OM soit en Ligue des Champions. Maintenant, deuxième, ça serait largement mérité. Après, n'oublions pas que le week-end dernier au Havre, ils sont très, très, très mauvais. On s'ennuie à mourir. et puis ils gagnent 3-1. Mmh. Donc, si vous voulez,
ils ont été longtemps 1-1.
Et Monaco, je pense que Monaco, c'est un petit peu leur faute parce que Monaco a un passage à vide énormissime, comme Nice, comme saison. Lyon, comme Strasbourg, comme beaucoup d'équipes. Mais Marseille a su profiter parce qu'ils ont été les plus réguliers. Même en étant mauvais, ils ont été réguliers.
Ils n'étaient pas en Coupe d'Europe alors que Monaco jouait la Ligue des Champions.
Oui, vous miserez plus sur Monaco pour la place de Dauphin ou...
Non, l'OM est à la maison le dernier match contre une équipe de Rennes entraînée par Habib Bey qui a du mal à mobiliser ses joueurs en cette fin de saison.
Il a réussi la semaine dernière
Il a dû pousser un coup de gueule quand même parce que son équipe est un peu en roue libre.
Il a assuré le maintien, c'est
ce qui était prévu.
Mais Monaco joue à Lens, c'est jamais facile d'aller là-bas.
9e,
surtout qu'il y a la possibilité pour le 7e du championnat, ou le 8e plutôt, d'être éventuellement repêché si Lyon est déclassé pour les raisons administratives que l'on sait en raison de ses problèmes financiers. Donc, probablement que Lens comme Brest, d'ailleurs, vont jouer cette dernière journée à fond avec cette perspective, pourquoi pas, d'accrocher une place européenne.
Rémi, qu'est-ce que vous diriez ? Qui sera Dauphin ? Qui sera Flipper, le Dauphin ?
Je crois que ça pourrait être OM, mais je sais toujours ce que ça veut dire, l'ancien de la maison. Il vient vous faire des sales tours. Donc, bien évidemment, Habib Bey qui revient là et qui risque de faire des sales tours.
Un mauvais tour.
Oui, un très mauvais tour à cet OM qui, même comme vous parlez de la régularité, je ne vois pas de la régularité. Si on regarde les confrontations directes, on dira que c'est Monaco qui est supérieur. Bon, voilà.
Mais sur la saison, Marseille second, 80% du temps.
Donc, c'est on peut bien dire...
Mais ils ont quand même eu une certaine irrégularité à un moment. On les a vus quatrième ou cinquième. Hein.
Ça a été très court depuis le début de saison.
Oui, donc pour moi, Habib Bey peut faire quelque chose à l'OM de très, très
grave. Il s'est peut-être malheureux.
Puisqu'il y a un proverbe africain qui dit « Les termites qui tuent le baobab viennent du baobab
». Termine Flipper le Dauphin, j'ai pas
Mal. Non, bon.
On me demande juste si Caracciola pourrait être champion d'Italie avec Naples.
Oui,
en une saison. Il pourrait dans la même année.
Il était là au début de la saison.
Il a participé champion de France.
Il peut être les deux. Le multiplex, ce sera demain soir. Tous les matchs de Ligue 1 se disputeront à la même heure, 21h, 19h, temps universel. Allez vite, les cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et tout de suite, vos cartons sélectionnés par Saliou Diouf.
C'est un miracle à Nice. Donc aujourd'hui, vous allez jouer avec le Barça, avec des milieux de terrain, des attaquants qui sont des défenseurs. Et ne vous en faites pas, L'Oréal va faire mal.
Radio Foot International, bonjour. Moi, c'est Bekaïba. Je voulais adresser aujourd'hui un carton rouge à Rémi Gonon. Rémi Gonon, pour celui qui suit tous les trois classiques qui ont suivi le dernier de ce dimanche, le Real Madrid n'était même pas capable d'être à la hauteur du FC Barcelone. Et pourtant, ce monsieur trouve toujours des arguments et fait, en tout cas, fait croire à tout le monde que le Real était dans une bonne dynamique. Donc, carton rouge à Rémi Gonon et bon café de sport à tout le monde.
Bonjour l'équipe des cafés des sports, moi c'est Abdul Malik Yaouba depuis Tchad à Bongo. Mon carton il est vert à l'homme de la situation, l'homme des chefs-d'œuvre, le maître Hansi Flick, l'homme qui a su ramener le FC Barcelone au sommet. On ne croyait pas, mais grâce à lui, on a retrouvé les grands Barça. Félicitations à lui pour les champions et bon café des sports à vous tous.
Bonsoir le Café des Sports, ici c'est Michel-Ange depuis Ottawa au Canada. Alors mon carton il est jaune, c'est un jaune d'encouragement à Kylian Mbappé parce que lui c'est vraiment un buteur. Sauf que dans sa carrière il a mis 2 triplés qui n'ont servi à rien. Le premier des triplés c'était en finale de Coupe du Monde, son équipe a perdu à la fin. Et puis son dernier triplé c'était face au Barça au Classico, où à la fin son équipe perd 4-3. Un carton jaune d'encouragement.
Salut Café des Sports, moi c'est Gilles Mbongo depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mon carton est vert pour souhaiter un bon rétablissement à Taiwo Awoni, l'attaquant nigérien qui évolue à Nottingham Forest après avoir reçu un coup qui n'était pas facile puisqu'il était soumis au coma artificiel. Mon carton est vert et prendre rétablissement pour lui. Merci, bonne émission.
Bonjour Radio Foot, c'est Michel depuis la Guinée-Bissau à Djégui. Aujourd'hui, je vais adresser un double carton vert. Le premier à Harry Kane qui a été très décisif pour son premier trophée majeur. Et que dire de la saison de Michael Olise? Il terminera sûrement meilleur passeur de la Bundesliga.
Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdoulaye Sain depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton est vert. Qui va directement à Kylian Mbappé. Malgré son début de saison difficile, il devient le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer dès sa première saison, 28 buts en Liga. Vraiment, félicitations à lui, du courage. Salut Rémi N'Golo.
Bonjour Radio France Internationale. Moi c'est Monsieur Kawel, depuis la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Mon carton aujourd'hui est vert. Envers Nulopart, Event de la République démocratique du Congo. Merci pour leur parcours, même si ça n'a pas été facile. On a été éliminé en quart de finale, mais on reviendra prochainement encore plus fort. Merci à eux, merci à tout le staff technique. Merci à eux.
Salut, Café des Sports, c'est Jovel Monet ici au Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à l'Etihad, l'équipe où joue Karim Benzema. Ils ont été sacrés champions d'Arabie Saoudite. Je leur donne un carton vert et bon Café des Sports.
Bonsoir à tout le Café des Sports. Je suis Dylan depuis le Gabon. Mon carton vert ce soir s'adresse particulièrement et spécialement à M. Rémi N'Golo, qui a été l'ange gardien du FC Barcelone cette année. Parce qu'à chaque fois qu'il a mal parlé du football club Barcelone, le Barcelone lui a répondu sur le terrain. Et il avait dit la dernière fois que Madrid allait faire très mal. Et le Real a fait très mal.
Bonjour Radio Foot International, bonjour toute l'équipe. C'est Jamal depuis Libreville. Félicitations pour Achraf Hakimi qui a remporté le trophée Marc Vivien Fouet. Pour moi, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Vraiment, il a fait... une superbe saison et il mérite ses trophées. Merci.
Eh bien voilà la preuve que vous nous écoutez fidèlement. Merci à tous et merci de ces cartons, c'est toujours un délice. Rémi, la couleur de votre carton?
Ça aurait pu être un carton noir, mais je dresse un carton vert à l'ancien capitaine des Lions indomptables, Emmanuel Koundé, qui hier encore souriait au milieu des gens et qui ce matin est mort. Tranquillement, c'était un grand barbare, un grand monument qui, avec l'équipe des Lions, faisait partie de cette grande génération dorée qui a conduit le Cameroun à la Coupe du Monde 82 et puis 90. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque, égalise contre l'Angleterre. Et c'est d'ailleurs lui qui offre aussi la CAN au Cameroun avec le but contre le Nigeria en 88. Donc le Cameroun détient deux CAN. Ce monsieur a été grandiose parce qu'il était milieu de terrain. Il est devenu défenseur et il a marqué 17 buts sous les couleurs des Lions. Eh bien, qu'il aille retrouver cette génération dorée, à savoir les Mfédé, Massing, qui ont barré Maradona. Il est parti, comme le dit un proverbe africain, quand Dieu ferme une porte sur terre, il vous ouvre une autre au paradis.
Et nous y reviendrons la semaine prochaine sur le sujet d'Emmanuel Koundé pour souligner son importance. Marc et Xavier, rapidement, Xavier.
Vert à Bologne, le club italien qui a remporté la Coupe d'Italie, la Coppa Italia, 51 ans après sa dernière victoire dans l'épreuve. Bologne, cette saison, avait perdu son entraîneur, Thiago Motta, parti à la Juventus, avait perdu un certain nombre de joueurs, notamment Joshua Zirkzee, parti à Manchester United. Ils ont joué la Ligue des Champions, ça a été compliqué. On pensait que ce serait une saison difficile pour eux, finalement, ils finissent avec la Coupe, bravo.
Et surtout, ils l'ont gagné au détriment du Milan AC, quand même.
Rouge, les trophées INFP, l'équipe type, pour moi, se reflète sur le dernier trimestre et pas sur la saison. Je pense qu'un Strasbourgeois, deux Monégasques, un Marseillais auraient mérité d'être là.
Là, on avait 9 Parisiens.
Bah, y en a certains qui ne méritaient pas d'être là, mais voilà.
En tout cas, Marseille, des Marseillais et des Parisiens peuvent parfois s'aimer.
Exactement.
Vous avez rendez-vous, si vous le voulez, demain à l'espace Champéré à Paris, où Marc et...
Eric
Rabessandratana, voilà, sont sur des cartes collector, on va dire. Et vous expliqueront, c'est des cartes Panini historiques. Et c'est la fin de ce Café des Sports, on termine rapidement. Merci beaucoup de nous avoir suivis, bon week-end à tous, à la semaine prochaine.